na na ni na 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 ni na na na. Elle chante la rivière, s'en remet à la terre-mère. Elle célèbre les saisons et porte la guérison. Na na ni na 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 ni na na na.
Neuf mai. Heureuse d'être seule hier. Heureuse de faire un feu dans la prairie, de jouer du tambour, de m'installer au-dessus du camp pour dormir la tête dans les étoiles. Un train d'étoiles est passé vers 23h, au moins 50. Et au petit matin, un couple de chevreuils est venu me réveiller. J'ai pu nourrir une moustique avec mon cœur et donner le biberon à Coquinette, la petite chevrette. Je me suis baladée longtemps en forêt. J'étais en télépathie avec mon groupe mycélium, les Voladoras. Puis j'ai été me baigner dans la rivière. Et j'ai eu un beau cercle de partage avec Mano et Cécile.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Dans la toile du vivant, un podcast proposé par Aline Wauters et Mayana Wolf. L'ambition de ce podcast est de vous inspirer et vous aider à mieux ressentir votre insertion dans la toile du vivant. Pour cela, nous recueillons des retours d'expérience du laboratoire du dialogue avec le vivant, une expérience initiée par Aline Wauters. Bonjour Aline.
Bonjour Mayana.
J'aimerais aujourd'hui que tu partages avec nos auditeurs et auditrices les outils qui vous ont permis d'approcher le vivant non humain au plus proche durant cette année à Momigny.
Ah ouais, ouais, c'est vrai. Parfois, on fait ça tellement de manière évidente qu'on n'en parle plus. C'est vrai que le plus gros truc, quand même, j'ai envie de dire, c'est oser la pratique du cercle. Hein, c'est quand même pas très présent dans notre société, la pratique du cercle. Hein, donc, ça modifie quand même vraiment des choses. On est tous assis à la même hauteur, souvent on est au sol, donc c'est aussi de l'humilité, on est sur la terre, enfin, on est au sol. Il n'y a personne qui a une meilleure place que l'autre, donc au niveau de l'écoute, elle est la même pour toutes, et puis faire circuler la parole dans le cercle, en général on ne répond pas à l'autre, on dépose la parole au centre, donc tu vois, donc c'est des pratiques qui nous sortent vraiment de ce qu'on est habitué à vivre et qui provoquent au cerveau aussi d'aller chercher d'autres choses autrement.
Et il y a aussi une écoute active.
Oui, tout à fait. Du coup, souvent dans le cercle, tu as le bâton de parole qui circule. Ce n'est pas toujours comme ça, mais souvent tu as un bâton de parole qui circule. Donc, chacun peut vraiment pleinement déposer ce qu'il a à dire sans avoir peur que quelqu'un réagisse. Mm-hmm. Hein, et du coup, chacun est à l'écoute, et puis prendra son temps de parole quand il viendra. Donc, ça modifie beaucoup de choses dans le rapport au sein du groupe. Hein. Puis on voit tous les personnes de la même manière. Donc, c'est quand même quelque chose, je pense, de très essentiel. Mm-hmm. Alors, par ailleurs, ça peut paraître tout simple comme ça, mais on a énormément pratiqué les pieds nus. Certaines beaucoup plus que d'autres. Certaines ont passé quasi toute l'année à pieds nus, d'autres un peu moins longtemps ou un peu moins souvent. Mais ça te transforme un rapport à la terre, en fait, ou un rapport à la forêt. Moi, je me rappelle la toute première fois que j'ai vécu ça, donc c'était bien avant Momigny, mais je me rappelle, je venais de lire un livre sur « Connectez-vous à la terre » où un gars pratiquait le pied nu depuis très longtemps. Et je suis allée en forêt près de chez moi. J'ai enlevé mes chaussures, je les ai laissées à l'entrée de la forêt, je me suis mis à marcher à pieds nus et très rapidement, instinctivement, j'ai quitté les sentiers. Et j'ai senti que parce que je n'avais pas de chaussures, je n'avais pas de raison de marcher sur les chemins. Et du coup, je suis sortie des sentiers battus, entre parenthèses, tu vois. Et je me rappelle, à un moment, je suis rentrée dans un petit ruisseau asséché, je me suis mis à marcher et je me sentais, pour la première fois de ma vie, appartenir, tu vois. J'étais pas un humain qui se baladait dans la forêt, j'étais un être vivant dans la forêt, avec la forêt. Je me rappelle, j'ai pleuré de grâce, tellement c'était fort de sentir ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus arrêté d'être à pieds nus, à pieds nus, à pieds nus, à pieds nus. Et franchement, ça transforme ton rapport à la forêt. Tu vois, si tu pars te balader avec des bonnes grosses chaussures de montagne, comme font beaucoup de gens, alors qu'il n'y a pas de montagne la plupart du temps en Belgique, mais on a acheté des bonnes grosses chaussures qui nous tiennent comme si on allait escalader les rochers là. Et si tout à coup ton pied est mis à nu et que tu touches la peau du sol et que tu avances et que tu sens toute cette texture, etc., eh bien peu à peu, ton pied, j'ai envie de dire, redevient intelligent. Mm-hmm. Tu vois ? Tout comme ta main se fera rarement mal parce qu'elle pressent là où elle peut toucher ou pas, ben le pied c'est pareil. Moi, je ne me suis jamais blessé les pieds. Mm-hmm. Et depuis combien d'années je marche à pieds nus ? Tu vois, j'ai fait de la montagne à pieds nus, j'ai bivouaqué à pieds nus en montagne. Je ne me suis jamais fait mal. Mm-hmm. Donc il y a une intelligence qui se développe dans le pied qui est vraiment importante. Il y a même de la défatigue. Là où quelqu'un va être fatigué de marcher, ben moi, comme je suis à pieds nus, je décharge l'inflammation en permanence dans la terre, en fait. C'est comme une antenne qui décharge en permanence. Et j'ai une capacité à marcher beaucoup plus longtemps que quelqu'un d'autre quand je suis à pieds nus. Mm-hmm. Et donc là, il y a la pratique de la connexion profonde qui, franchement, en vaut la peine. Moi, je dirais c'est le numéro un mm-hmm. quand tu fais de l'immersion en nature. Mets-toi à pieds nus. Ose être à pieds nus. Parfois, il y a des gens qui ont des pieds comme ça, hyper sensibles, parce qu'ils n'ont jamais, jamais, jamais fait ça. Alors, je propose qu'ils mettent une ou deux paires de chaussettes les unes sur les autres, mm-hmm. ne fût-ce que pour sentir les formes, peut-être la température ou quoi. Mais ils ont la peau qui n'a pas du tout endurci au contact, j'ai mm-hmm. envie de dire. C'est un peu spécial, mais ça revient vite. Mm-hmm. Et une fois qu'on a goûté à ça, on est émerveillé, en fait.
Ça change la statique aussi.
Oui, ça change la posture.
On ne pose pas le pied de la même façon. Oui, c'est beaucoup plus élégant,
tout à fait. Léger. Puis tu fais moins de bruit. Puis c'est tout autre chose. Mm. Vraiment, c'est tout autre chose. Donc ça, je dirais que le cercle et le pied nu, c'est des gros machins. Après, ce qu'on a quand même beaucoup pratiqué, que je trouve qui est une aide importante à faire confiance à son intuition, c'est la pratique de tirage d'oracle, de tarot, de cartes, de manière générale, parce que si tu y crois, c'est parce que tu crois en ton intuition de tirer la bonne carte, sinon mm-hmm. tu n'y crois pas. Mm-hmm. Donc, quelque part, c'est une extension de ton intuition qui va tirer la bonne carte, mm-hmm. et c'est ton intuition qui te répond. Hein. Mm-hmm. Et donc, je trouve que c'est très, très bon pour faire grandir la confiance en notre intuition. Mmh. Au-delà du fait que souvent, on a accès à des sagesses d'un peu partout au monde, des sagesses d'autres peuples, mais aussi d'autres espèces. Mmh. Il y a les oracles de la forêt. Et du coup, ça nous lie aussi, tu vois, mmh. à d'autres philosophies, à d'autres peuples, à d'autres espèces, etc. Donc, ça élargit comme ça le champ des possibles et le champ de... oser recevoir des enseignements de plus large que moi, mmh. et en y allant avec mon intuition. Donc je trouve que, voilà, on a beaucoup pratiqué ça, on avait une petite bibliothèque avec certainement une quinzaine d'oracles et de tarots qui étaient là, et je trouve que c'est riche à pratiquer. Après, ce qu'on a quand même beaucoup fait aussi, qui travaille beaucoup sur le changement de vision, c'est d'oser aller dormir en forêt, sans tente, hein, donc tu prends ton baluchon, tu t'installes à la fin de la journée, et puis tu entends ce qui se passe dans la forêt aux dernières heures, là, le son des insectes qui augmentent juste avant le coucher du soleil, tu entends les derniers oiseaux, puis les premiers oiseaux de nuit, et puis les insectes qui se taisent, et puis c'est tout autre chose. Donc ça, je dirais que le cercle et le pied nu, c'est des gros machins. Après, ce qu'on a quand même beaucoup pratiqué, que je trouve qui est une aide importante à faire confiance à son intuition, c'est la pratique de tirage d'oracle, de tarot, de cartes, de manière générale. Parce que si tu y crois, c'est parce que tu crois en ton intuition de tirer la bonne carte. Sinon, mm-hmm. tu n'y crois pas. Hein. Donc, quelque part, c'est une extension de ton intuition qui va tirer la bonne carte. Et c'est ton intuition qui te répond. Hein. Et donc, je trouve que c'est très, très bon pour faire grandir la confiance en notre intuition. Mm-hmm. Voilà, au-delà du fait que souvent, on a accès à des sagesses d'un peu partout au monde, des sagesses d'autres peuples, mais aussi d'autres espèces. Il y a les oracles de la forêt. Et du coup, ça nous lie aussi, tu vois, à d'autres philosophies, à d'autres peuples, à d'autres espèces, etc. Donc, ça élargit comme ça le champ des possibles et le champ de oser recevoir des enseignements de plus large que moi. Et en y allant avec mon intuition. Donc, je trouve que, voilà, on a beaucoup pratiqué ça. On avait une petite bibliothèque avec certainement une quinzaine d'oracles et de tarots qui étaient là. Et je trouve que c'est riche à pratiquer. Après, ce qu'on a quand même beaucoup fait aussi, qui travaille beaucoup sur le changement de vision, c'est d'oser aller dormir en forêt, sans tente. Tu prends ton baluchon, tu t'installes à la fin de la journée, et puis tu entends ce qui se passe dans la forêt aux dernières heures, là, le son des insectes qui augmentent juste avant le coucher du soleil, tu entends les derniers oiseaux, puis les premiers oiseaux de nuit, et puis les insectes qui se taisent, et puis ils pensent, quand j'en parle avec ma fille, elle me dit « mais t'as pas peur ?» Je dis « non, j'ai pas peur. » Mais moi, j'aurais super peur. Mais peur de quoi, tu vois? Alors, je pense que souvent, on a plutôt peur des humains.
Des humains.
Et de risque d'être agressé en forêt. On n'a pas tellement peur du sanglier ou de l'écureuil ou de l'hérisson. On a plutôt peur des humains. Mais de faire cette pratique aussi, c'est de dire, mais les forêts ne sont pas remplies d'humains prêts à attaquer. Quoi. Enfin, tu vois, c'est quoi ces images qu'on a qui nous viennent de films ou je ne sais pas quoi? Enfin, tu vois, les forêts ne sont pas remplies de brigands, quoi.
Et dans vos pratiques, tu as parlé de faire confiance à l'intuition avec les cartes. Peut-être que tu pourrais nous parler un peu d'astronomie aussi.
Ah oui.
D'astrologie, pardon.
Oui, mais c'est un peu lié quand même. C'est vrai. On avait la pratique d'écouter chaque mois un Québécois, Yann Loranger, qui faisait... Il parlait à toutes les pleines lunes et à toutes les nouvelles lunes de ce qui se passait dans le ciel. Et je me rappelle qu'assez bien au début qu'on était là, il avait fait une petite conférence. Enfin, il avait parlé sur pourquoi c'était intéressant de s'intéresser à l'astrologie. Et son propos, c'était de dire que beaucoup de gens s'y intéressent parce qu'ils veulent savoir leur futur ou si quelque chose va leur arriver ou je ne sais pas quoi. Il disait, moi, je trouve que ça, c'est... Voilà, pas très intéressant. Au petit matin, tu te réveilles, c'est tout bleu autour de toi. C'est juste pure magie. Tu dis, il y a des fées clochettes. C'est pas possible. Tu vois, il peut y avoir que des fées clochettes. C'est tellement beau, quoi. C'est vraiment... voilà, ce sont des pratiques très simples, hein, mais elles sont énormes, en fait, parce qu'on ne les pratique jamais. Et puis, on se dit, ben ouais, c'est quoi le problème? Il n'y a pas de quoi avoir peur de dormir en forêt. En fait, pourquoi quand j'y pense, quand j'en parle avec ma fille, elle me dit « mais t'as pas peur ?» Je dis « non, j'ai pas peur. Mais moi, j'aurais super peur. Mais peur de quoi ?» Tu vois. Alors, je pense que souvent, on a plutôt peur des humains.
Des humains.
Et de risque d'être agressé en forêt. On n'a pas tellement peur du sanglier ou de l'écureuil ou de l'hérisson. On a plutôt peur des humains. Mais de faire cette pratique aussi, c'est de dire « mais les forêts ne sont pas remplies. » prêt à attaquer, quoi. Enfin, tu vois, c'est quoi ces images qu'on a qui nous viennent de films ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, les forêts sont pas remplies de brigands, quoi.
Et dans vos pratiques, tu as parlé de faire confiance à l'intuition avec les cartes. Peut-être que tu pourrais nous parler un peu d'astronomie aussi.
Ah oui.
D'astrologie, pardon.
Oui, mais c'est un peu lié quand même. C'est vrai. On avait la pratique d'écouter chaque mois un Québécois, Yann Loranger, qui parlait à toutes les pleines lunes et à toutes les nouvelles lunes de ce qui se passait dans le ciel. Et je me rappelle qu'assez bien au début qu'on était là, il avait fait une petite conférence. Enfin, il avait parlé sur pourquoi c'était intéressant de s'intéresser à l'astrologie. Et son propos, c'était de dire que beaucoup de gens s'y intéressent parce qu'ils veulent savoir leur futur ou si quelque chose va leur arriver ou je ne sais pas quoi. Il disait, moi, je trouve que ça, c'est pas très intéressant, particulière, pour recevoir ces cadeaux. et en faire quelque chose. Il y a, ben, il y a des cadeaux qui arrivent, qui est-ce qui est là pour les recevoir tu vois, c'est... Donc ça a beaucoup transformé mon lien à l'astrologie. Donc j'avais beaucoup de plaisir à écouter ce qui se passait dans le ciel, dans le cosmos, et ça nous a... Ça nous a aidés aussi, tu vois, parce que quand on avait des moments parfois très difficiles, on comprenait que ce n'était pas juste notre groupe. Mm-hmm. La plupart du temps, ça se passait de manière beaucoup plus méta. Il y avait des planètes X et Y qui passaient et qui provoquaient des grands moments de chaos ou des nécessités de conflits pour avancer. Et donc, ça nous aidait aussi de sentir que ce qui se passait, ce n'était pas juste nos petits égos entre nous, qu'on était traversés par quelque chose de beaucoup plus large. Et donc, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Ouais. Pour le groupe aussi, c'était intéressant.
Et alors, justement, pour le groupe, peut-être une dernière pratique, le chant que vous avez pratiqué. Tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, ça, c'était une chance. Je crois que ça avait déjà commencé un an avant qu'on arrive, mais donc, il y avait un couple qui vivait là. Et ils avaient instauré une chorale locale tous les mardis soirs. Il n'y avait pas grand monde qui venait, et donc ils étaient très contents que nous, on se joigne à ça. Tout à coup, ils avaient 12 personnes de plus. Et puis, assez rapidement, on était majoritaire. Enfin, donc, parfois, il y avait 3-4 personnes de plus. Mais du coup, c'est... Mais en tout cas, il y avait ce rendez-vous de la chorale du mardi soir, où finalement, on était pendant 2 heures réunis à chanter à l'unisson. Parce que c'est ça que ça fait, hein. C'était une chorale polyphonique, donc on était réunis à l'unisson. Et c'était intéressant aussi parce qu'avec le temps, on a été de plus en plus à l'unisson parce que la personne qui menait la chorale, elle jouait du shruti, tu vois, cette espèce de petit accordéon indien là, qui permet d'avoir une mélodie de base. Et avec le temps, les échauffements étaient de plus en plus longs et étaient juste au shruti, donc on était juste à faire des... Et donc, on était vraiment plus que dans la vocale à l'unisson, même plus dans essayer de bien pratiquer une mélodie particulière. Et c'est vrai que ça nous amenait dans une paix intérieure et une paix du groupe. Ça amenait de la paix, en fait, hein, d'essayer par le son d'être à l'unisson, alors qu'au niveau des mots, on n'y arrive pas. Enfin, tu vois, parce qu'on est en conflit ou parce qu'on ne se comprend pas. Mais que quand même, dans le son, on y arrive, eh ben, c'était guérisseur. Mm-hmm. Oui, c'était très, très bien d'avoir ce rendez-vous du mardi soir.
Merci beaucoup, Aline, pour ces clés vraiment très pratiques, très concrètes et, on le voit, simples à mettre en œuvre. Donc, j'espère que ça inspirera beaucoup nos auditeurs et auditrices.
Oui, ben, ça serait super.
Un peu plus?
Oui, ça, c'était une chance... je crois que ça avait déjà commencé un an avant qu'on arrive, mais donc il y avait un couple qui vivait là, et ils avaient instauré une chorale locale tous les mardis soirs. Il n'y avait pas grand monde qui venait, et donc ils étaient très contents que nous, on se joigne à ça. Tout à coup, ils avaient 12 personnes de plus. Et puis, assez rapidement, on était majoritaire. Enfin, donc, parfois, il y avait 3-4 personnes de plus, mais du coup, c'est... Mais en tout cas, il y avait ce rendez-vous de la chorale du mardi soir, où finalement, on était pendant 2 heures réunis à chanter à l'unisson. Parce que c'est ça que ça fait, hein. C'était une chorale polyphonique. Donc, on était réunis à l'unisson. Et c'était intéressant aussi parce qu'avec le temps, on a été de plus en plus à l'unisson parce que la personne qui menait la chorale, elle jouait du shruti, tu vois, cette espèce de petit accordéon indien là, qui permet d'avoir une mélodie de base. Et avec le temps, les échauffements étaient de plus en plus longs et étaient juste au shruti. Donc, on était juste à faire des... Et donc, on était vraiment plus que dans la vocale à l'unisson, même plus dans essayer de bien pratiquer une mélodie particulière. Et c'est vrai que ça nous amenait dans une paix intérieure et une paix du groupe. Ça amenait de la paix, en fait, hein, d'essayer par le son... d'être à l'unisson alors qu'au niveau des mots, on n'y arrive pas. Enfin, tu vois, parce qu'on est en conflit ou parce qu'on ne se comprend pas. Mais que quand même, dans le son, on y arrive, eh ben, c'était guérisseur. Mm-hmm. Oui, c'était très, très bien d'avoir ce rendez-vous du mardi soir.
Merci beaucoup, Aline, pour ces clés vraiment très pratiques, très concrètes et, on le voit, simples à mettre en œuvre. Donc, j'espère que ça inspirera beaucoup nos auditeurs et auditrices.
Oui, ben, ça serait super.
Chers auditeurs et auditrices, merci d'être restés jusqu'à la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce podcast est disponible sur Spotify, PodCloud et Deezer. À bientôt pour de prochains épisodes.
Elle chante la rivière, s'en remet à la terre-mère. Elle célèbre les saisons et porte la guérison. Nananinaï.